Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Nous sommes toujours dans l'étude de l'Église au sixième chapitre du disciple victorieux. Nous avons vu la définition de l'Église. Nous avons compris que l'Église, c'est une maison spirituelle, un corps spirituel composé de plusieurs membres. Ensuite, nous avons vu que l'Église est une bergerie avec son grand berger, Jésus-Christ. De plus, nous avons vu que l'Église est en même temps une école avec une équipe d'enseignants, en même temps une famille qui fraternise, une famille qui offre un soutien émotionnel, une famille qui offre une protection spirituelle. Et on était rendu au point où nous lisons qu'une famille, oui, l'Église est une famille qui offre une protection spirituelle pour celui qui pourrait chuter sous l'influence d'un faux frère. Vous avez dit, un faux frère, est-ce que c'est possible qu'il y a de faux frères parmi nous? Et en fait, souvent les gens se servent de ça comme excuse. Ils vont dire, bien moi, je vais pas à l'église parce que je vois des hypocrites à l'église et puis ils ne vivent pas mieux que moi. Alors, une des choses qu'on doit comprendre à ce niveau-là, c'est que premièrement, s'il y a des gens hypocrites dans les églises, bien c'est impossible de vraiment tout connaître, mais il y en a des gens qui ne marchent vraiment pas avec le Seigneur et la faute repose sur le berger qui ne fait pas son travail. Le berger devrait aller reprendre la personne avec amour pour vouloir gagner la personne. Et là, ensuite, le berger va dire, écoute mon frère ou ma sœur, c'est important de revenir sur le chemin de la vérité. Mais si la personne ne veut rien savoir de Dieu, bien quelque part, on peut peut-être discerner que la personne n'est même pas un enfant de Dieu. Donc, on va voir ensemble ici dans 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 9 à 13. Il est écrit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Non, pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Bon, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Au verset 11, ça dit maintenant. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou qui vit dans le péché tout simplement là. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre ici? S'il y a des faux frères parmi nous, des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, bien Dieu nous appelle ici à ne pas avoir de relation intime avec ces gens-là. Pourquoi? Bien parce que notre relation avec eux va contaminer notre vie. Ceci dit, on peut avoir des amis en dehors de l'Église, certainement, là. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Des relations vraiment intimes, c'est difficile d'avoir des relations intimes avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Bien parce que vous êtes peiné, par exemple. Vous vivez une chose. Admettons, on va prendre cette illustration-là. Une jeune fille chrétienne a commis un péché, et puis là, OK, elle a eu des relations sexuelles avant le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Elle a tombé enceinte, admettons. Bon. Là, son ami intime, qui ne connaît pas Jésus, va lui proposer de se faire avorter. Mais selon la parole de Dieu, c'est un péché. Donc, si elle se confie constamment dans une personne qui ne connaît pas Dieu, elle va recevoir de mauvais conseils. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est s'entourer et être intime avec des gens qui sont renouvelés par la parole de Dieu. Ceci dit, on peut avoir des amis dans le monde, parce que comment faire pour les gagner à Christ si on s'isole? Non, Dieu ne nous appelle pas à s'isoler, mais en même temps, faut avoir du discernement et savoir en qui se confier, parce que si on se confie dans les mauvaises personnes, on va avoir de mauvais conseils. Ça fait du sens. Là, au verset 11, ça dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre. » Donc, une personne qui se dit frère, mais qui ne marche vraiment pas avec Dieu. Et là, ça dit « Ôtez le méchant du milieu de vous. » Ça, là, je peux vous dire, je l'ai déjà fait. Il y a quelqu'un qui vivait dans le péché. Je l'ai rencontré spécialement pour lui parler de cette situation-là. Je lui ai dit, écoute mon frère, supposément ça fait 15 ans que tu es un enfant de Dieu, mais tu vis dans le péché et tu t'en fous là. J'ai dit, c'est soit que tu veux marcher avec Dieu et moi je suis là, je vais t'aider à marcher avec Dieu, ou tu quittes l'église. On ne peut pas permettre que quelqu'un qui refuse de marcher avec Jésus vienne à l'église avec nous. Parce que là, on est en train de communiquer aux autres que vivre dans le péché, dans la débauche, dans tout ça, c'est correct. On approuve finalement du péché. Et ça aussi, ça serait un péché. Donc, on ne veut pas approuver du péché qui mène à la mort et qui peut contaminer les autres frères et les autres sœurs de l'Église. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ce texte-là. Et ça dit de ne même pas manger avec un tel homme. Quelqu'un qui se dit frère, mais qui est véritablement un faux frère, on ne veut même pas manger avec cette personne-là. Pourquoi? Ben parce que, imaginez, vous êtes là avec quelqu'un qui se dit un frère, mais qui vit dans le péché, et vous continuez votre relation avec cette personne-là comme si rien n'était. Vous n'êtes pas en train d'aider la personne. Si la personne, okay, qui commet le péché, qui veut vraiment marcher avec le diable, et tout d'un coup, réalise que les gens de l'Église ne fraternise plus avec lui, il va dire, ah, coudonc, je m'ennuie. Là, la personne va se remettre en question, va dire, ben, la relation que j'avais avec mes frères et mes sœurs, ben là, j'ai vécu une coupure. J'aimerais ça être restauré dans cette relation-là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir au Seigneur pour revenir et vous connaître également et avoir cette relation avec vous. Certainement, on espère que la personne revient par amour pour Dieu, mais on n'aide pas la personne en continuant comme si rien n'était. C'est super important. Donc, à notre époque, la majorité des voix dans l'Église proclame la grâce, mais rares sont les églises qui mettent en pratique ce passage. Je crois que l'abus de certains groupes sectaires a repoussé la vraie église d'obéir à ce commandement divin. Pendant ce temps, le péché abonde parmi nous. Vous savez, on a entendu parler souvent des témoins de Jéhovah qui ont renié les personnes qui ont quitté leur religion. Et là, on a vu ça, bien, on a dit « Oh wow, c'est terrible, c'est méchant, blablabla. » On a toutes sortes d'opinions. Mais à cause de ce modèle qu'on a vu, ce mauvais modèle, là, l'Église, la véritable Église, a omis de pratiquer ce passage de la parole de Dieu. On a dit, bien là, vu qu'on voit l'extrême ici chez les témoins de Jéhovah, nous, les chrétiens, on ne fera rien. Et il y a des églises que je connais, malheureusement, qui ont des gens qui sont dans le péché, et puis on ne dit rien, on continue comme si rien n'était. Ça, c'est contraire au texte qu'on vient de lire. À quelque part, si c'est écrit dans la Bible, Dieu nous appelle à le mettre en pratique, mais d'une bonne façon. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut toujours redresser une personne qui est dans le péché avec un esprit de douceur, comme on a vu dans Galates chapitre 6 au verset 1 à 5. On a tout ça. On veut restaurer la personne. On veut aider la personne à se relever. Mais une personne qui dit, non, moi, je suis à terre et je reste à terre. Je ne veux rien faire pour changer. Je veux marcher dans le péché. Je ne veux pas marcher avec Dieu. Bien, ils n'ont pas d'affaire à l'Église de toute façon. Parce qu'une personne comme ça veut juste entraîner d'autres personnes dans sa débauche, dans son péché. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, si on écoute la parole de Dieu, c'est dire « ôtez le méchant du milieu de vous, le méchant ». Bon, une fois, j'ai été dans une situation, il y avait une femme à l'Église qui vivait dans le péché. Là, j'aurais pu appliquer ce texte-là et dire « bon, je dois enlever la méchante ». Mais je priais, je disais « Seigneur, montre-moi quoi faire avec cette personne ». Parce que je crois que la personne est dans un mauvais chemin, mais peut-être ne comprend pas vraiment. Le Seigneur m'a montré, cette personne-là n'est pas vraiment méchante. C'est juste qu'elle est simple. Elle a été séduite. Alors, va la reprendre avec amour. Qu'est-ce qu'on a fait? Mon épouse et moi, on était là rencontrés. On a dit, écoute, ta situation, le Seigneur m'a montré, tu n'es pas une méchante parmi nous, là. Mais ton cœur ici a été détourné du bon chemin. Dieu t'appelle à amener une correction. Et la personne s'est repentie. Alors, gloire à Dieu pour ça. Et on voit des changements dans la vie des gens, mais il faut pratiquer la Bible. On ne peut pas juste choisir à droite et à gauche et dire, bon, ici et là, tel texte, j'aime ça et pas l'autre. Non, on veut mettre toute la Bible en pratique dans nos vies. Donc, gloire à Dieu, on a vu plusieurs choses là jusqu'à présent sur l'Église locale. Là, on va se poser la question, pourquoi vivons-nous l'Église comme nous la vivons aujourd'hui? Surtout si vous êtes dans notre assemblée, bien, vous pouvez peut-être vous poser des questions. Si vous êtes nouveau, vous avez peut-être des questions concernant l'Église locale. Et puis là, vous vous dites, bien, coudonc, comment ça, il y a telle chose qui se passe à l'Église? Bien, je suis content que vous vous posez des questions parce qu'on va les répondre, parce que les pratiques que nous avons à l'Église sont bibliques. Donc, la première question qu'on veut se poser, pourquoi intégrer des instruments de musique dans une célébration d'Église? Il y a des églises, surtout dans le sud des États-Unis, il y a des églises qui disent, non, on ne peut pas intégrer des instruments de musique parce que ce n'est pas sain. Pour nous, on veut juste chanter. Bon, ça, c'est une idée qu'ils ont, mais elle n'est pas biblique. Parce que dans Psaume 150, verset 4, il est écrit « Louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. » Bon, bibliquement, on voit ici « Louez le Seigneur avec des instruments », c'est clair. Donc, je me demande comment les gens peuvent se fabriquer des théologies qui diraient « Bon, on va juste louer Dieu vocalement, on va juste chanter, et il ne faut pas intégrer d'instruments. » Non, non, c'est pas biblique. Alors, nous, à l'Église, on a la musique. On a toute une équipe musicale qui est là et on est super bénis de les avoir. Ensuite, une autre question. Pourquoi les gens tapent-ils des mains dans un contexte d'église? Bon, encore une fois, la réponse est dans la Bible. Le psaume 47, verset 1. Au chef des chants des fils de Corée, psaume 47, verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Donc, battez des mains, c'est biblique. Pourquoi les gens lèvent-ils les mains pendant les chants? Si vous êtes nouveau à l'église et puis vous êtes là, vous dites, ah, mais comment ça les gens lèvent les mains? Mais dans le psaume 134, il est écrit au verset 2, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. C'est une façon de louer le Seigneur. On lève les mains pour bénir le nom de Dieu. Vous savez, c'est comme un enfant qui lève les mains vers son parent, qui dit à son père ou à sa mère, papa, maman, je veux être dans tes bras, je veux que tu viennes me prendre dans tes bras. Donc, le petit bébé va lever les mains et puis là, le père ou la mère va prendre l'enfant dans ses mains. C'est une façon de s'abandonner à Dieu dans la louange. On exprime notre amour aussi envers Dieu. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. On est en train de s'abandonner à Dieu. On bénit son nom en levant les mains. Pourquoi les prédicateurs touchent-ils parfois les gens lors de la prière? Ça arrive des fois dans des réunions d'église où on va imposer les mains sur les gens. Okay? Des fois, on peut mettre la main sur l'épaule. Des fois, c'est sur le front. Peu importe. On peut toucher la personne. Mais pourquoi? Est-ce que c'est biblique? Oui, dans 1 Timothée 4, 14, il est écrit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Donc ici, on voit l'imposition des mains. Parfois, c'est pour une prière pour la guérison, par exemple. Et aussi, des fois, on va imposer les mains pour relâcher un ministère, quelqu'un qui est dans l'Église, qui prêche la parole, et on reconnaît l'onction ministérielle, l'onction d'un des 5 ministères, et puis on peut prier pour la personne, imposer les mains et relâcher la personne, reconnaître la personne dans ce ministère-là, et on appelle ça l'ordination d'une personne. Donc, oui, on peut imposer les mains à ce moment-là, mais aussi, il y a d'autres occasions où on va imposer les mains pour la guérison et pour une prière de bénédiction. Pourquoi les prédicateurs utilisent-ils de l'huile lorsqu'ils imposent leurs mains? Bon, ben c'est biblique encore une fois, dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? » La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, nous voyons ici, on va prier pour les gens et on va accorder cette onction d'huile. L'huile représente l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, tout simplement, on s'accorde ici avec le cœur de Dieu et on croit que le Saint-Esprit fait le travail. Alors, on comprend que cette huile-là n'a pas une puissance médicale, ok? C'est pas, voilà les médicaments, les soins qu'on vous offre ici. Non, mais ça représente l'œuvre du Saint-Esprit, tout simplement. Une autre question. Pourquoi les gens tombent-ils parfois par terre lorsqu'ils reçoivent de la prière? Mais ça arrive à l'occasion, dans Actes 9, verset 4, il est écrit, « Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Donc ici, il tomba par terre. Tout simplement, quand la présence de Dieu vient, la note, quand la puissance de Dieu tombe sur une personne, sa puissance surnaturelle est parfois tellement présente que l'humanité cède à la divinité. Donc, c'est biblique encore une fois. Des fois, on est concerné quand les gens se jettent à terre et c'est charnel. Souvent, ça arrive et on voit ça des fois à la télévision. Les gens se jettent à terre et ce n'était pas vraiment la puissance de Dieu, c'est juste par habitude. Bon, à l'église, on en voit à l'occasion les gens qui peuvent tomber par terre dans la présence de Dieu, mais on ne court pas après ça. Qu'est-ce qu'on veut? C'est simplement la puissance de Dieu. Et quand on tombe à terre, ce n'est pas un signe qu'on a plus reçu que si on reste debout. Alors, on peut revenir là-dessus dans notre prochaine session, mais tout ça pour vous dire que oui, c'est biblique, on peut tomber par terre et recevoir l'œuvre du Saint-Esprit à ce moment-là. Alors, d'ici à la prochaine fois, continuez encore une fois dans votre marche avec le Seigneur. Soyez richement bénis et que le Seigneur puisse vous bénir dans votre marche victorieuse en Jésus.